With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ça, ouvre-moi ou le chasseur me tuera. Lapin, on triga. Me serrer la main, me serrer la main.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Au départ, Virginie n'avait pas spécialement envie de devenir maman. Elle y voyait beaucoup de contraintes à sa liberté. Puis elle a rencontré le bon, l'homme qui allait partager sa vie, et ensemble ils ont rapidement décidé de devenir parents. Si la grossesse s'est bien passée, elle fut de courte durée car Virginie a accouché plus de 2 mois avant son terme. L'accouchement se passe bien, Virginie se prépare à accueillir un tout petit bébé, elle la découvre de dos, le temps d'une caresse, et sa fille, grande prématurée, est immédiatement transportée dans une grande salle de réanimation avec toute une armée de bébés guerriers où elle va se battre pour la vie pendant de longues semaines. En France, ce sont 165 bébés qui naissent prématurés chaque jour. Alors comment cela se passe pour ces femmes qui deviennent mères et sont aussitôt séparées de leur bébé? Dans cet épisode, Virginie nous raconte sa grossesse et le jour où elle a perdu les os. Elle nous parle de son accouchement très doux, du déni de la prématurité de sa fille jusqu'à l'acceptation, des hauts et des bas quotidiens, de l'allaitement de sa fille qui marquera un des moments forts de sa maternité, et du fameux jour de la sortie, quand enfin son bébé a pris suffisamment de poids pour qu'ils se retrouvent enfin en famille chez eux, après 77 jours de combat. Bonne écoute. Bonjour Virginie.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans Le Tourbillon.
Merci à toi de me proposer de la raconter.
Alors, on va revenir au tout début, toi, de ta rencontre idyllique avec ton chéri. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quand c'était, comment ça s'est passé?
Bien sûr. Donc en fait, je suis toute nouvelle lyonnaise. J'ai quitté mon nord il y a à peine 3 ans. Je suis arrivée à Lyon avec ma petite voiture et quelques vêtements dans le coffre. Et puis je me suis installée, j'ai commencé un nouveau job et j'ai découvert une nouvelle région. Je fais souvent ça au cours de ma vie. Et puis, de façon très originale, hein, je me suis inscrite sur un site de rencontre, tant qu'à faire. À 33 ans, ça commence un petit peu à cogiter, hein, de vouloir rencontrer le bon, le prince charmant. Et puis, il m'a pas fallu très longtemps pour le rencontrer. Je sais pas, ça devait être écrit qu'on devait se rencontrer à Lyon. Et puis, on s'est très vite vu et ça a collé tout de suite. En fait, ça a été vraiment une évidence. Donc, mon prince charmant se prénomme Guillaume et il m'attendait. Et moi aussi, donc ça tombe très bien. Très rapidement, j'ai rendu mon appartement que je venais de louer sur Lyon pour m'installer avec lui. Donc, au bout de 3 mois. Et puis, on a vécu ensemble... Et ça s'est fait très naturellement, on a été très compatibles rapidement, on a beaucoup de points communs, on s'est lancé des défis sportifs, parce qu'on est un petit peu comme ça, on aime bien se défier. Donc on a préparé un petit GR20, tous les deux, en une semaine, on est allé en Corse, donc 6 mois après notre rencontre, faire ce GR20, c'était extraordinaire, on est revenu encore plus soudés, et puis au final... De fil en aiguille, c'est arrivé aussi très rapidement qu'on ait eu envie de faire un enfant, puisque on en avait tous les deux envie et puis que ça nous semblait tellement évident. Et donc à la fin de notre fameux GR20, on s'était offert trois nuits à Porto Vecchio, dans un super hôtel pour se féliciter de notre exploit. Et puis le premier matin de Porto Vecchio, j'ai fait un test de grossesse et j'ai appris qu'on avait fait le GR20 à 3 en fait. puisque j'étais enceinte de 3 semaines. Donc voilà, en gros, le début de l'idylle.
Et toi, quand tu étais plus jeune, la maternité, c'était quelque chose... c'est quelque chose que tu as toujours voulu dans ta vie. Tu savais que tu serais maman, c'était un vrai désir.
Alors, absolument pas. En fait, très longtemps, je me suis persuadée que je n'en voulais pas d'enfant, pour des raisons qui me semblaient, moi, tout à fait légitimes. C'est-à-dire que je comprenais celles qui voulaient des enfants, mais que je n'avais pas forcément envie de faire partie de ce clan, puisque pour moi, un enfant... c'était un petit peu une perte de ma liberté. Or, je chéris énormément ma liberté. Et quand je voyais mes amis en fait devenir parents, c'était difficile pour moi de me projeter dans leur rôle, puisque je voyais bien que tout était plus difficile. Je voyais bien que ils étaient épuisés, qu'ils partaient plus en vacances, qu'ils devaient gérer de la nounou, que ça coûtait cher, forcément quand on les sollicitait pour partir en week-end, c'était pas au pied levé. En fait pour moi c'était un ensemble de contraintes qui ne correspondaient pas à mes envies. Moi qui adorais voyager, qui voyage tout le temps, qui prend des décisions un peu du jour au lendemain sur changer de vie si l'opportunité se présente. Et en fait, pour moi, un enfant était vraiment difficilement cumulable avec la vie que moi j'aimais mener, quoi. Donc, jusqu'à l'âge de 26 ans, 27 ans, pour moi, il était hors de question de devenir maman. Et j'ai même, à la fac, j'ai eu le choix à un moment donné de partir en recherche et j'étais à deux doigts de partir en doctorat pour justement écrire sur les couples qui décidaient de ne pas avoir d'enfants, pour que le monde comprenne que ce n'était pas une maladie de ne pas avoir d'enfants et que ça pouvait être très bien vécu aussi. Donc non, franchement, la maternité n'a pas du tout été un rêve de petite fille au départ. Et puis petit à petit, surtout j'ai vu mon petit frère devenir papa et j'ai vu mes parents devenir grands-parents et j'ai compris une magie que j'avais pas saisie avant. Et je pense que depuis la naissance de mon neveu, je pense que les choses ont commencé à changer. Et que, tant mieux. Parce que je serais passée effectivement à côté de quelque chose. Donc je suis toujours aujourd'hui convaincue qu'avoir des enfants, c'est compliqué. C'est un frein quand même à pas mal de choses. Mais que la contrepartie vaut vraiment le coup. Donc heureusement qu'on peut changer d'avis.
Et alors, ce jour où tu découvres ta grossesse, quel effet ça te fait? Est-ce que tu repenses à tout ça, justement, à tes a priori sur la maternité ou
Non, honnêtement, ma réaction, elle a été très étonnante, puisque je pense que c'est la première fois, et la dernière fois peut-être jusqu'à maintenant, que mon chéri m'a vu ne pas parler, puisque je suis littéralement restée sans voix, c'est-à-dire qu'aucun son ne sortait, j'avais un nœud à la gorge. J'avais chaud et j'avais les yeux écarquillés et je comprenais à moitié. Et je sais pas, en fait, si j'ai compris tout de suite, puisque je me suis sentie habitée tout de suite. Et déjà pendant notre gervin, j'avais l'impression d'avoir une force. J'ai déjà une force d'esprit, j'ai déjà un mental, mais j'avais l'impression d'avoir plus. Et donc je savais presque déjà avant le test que j'étais habitée, quoi. Et donc, du coup, de le voir écrit... Alors, en fait, c'est marrant, c'est que moi, qui suis d'habitude très exubérante, je me suis éteinte. Et mon mari, qui est davantage raisonné, il a sauté de joie, il a explosé de joie. Et donc, du coup, c'était un moment magique, ça, c'est clair. C'était magique. Déjà, beaucoup de doutes se sont envolés, puisque... on a toujours, quand on se lance dans un projet comme ça, on a toujours peur de tomber comme les couples qui malheureusement n'arrivent pas à en avoir et qui tournent ensuite des longs périples pour avoir un enfant avec l'assistance médicale, etc. Et en fait, moi, la chose que j'ai pensé, je suis tombée enceinte naturellement et c'est une des premières choses qui m'est venue à l'idée parce que j'avais 33 ans et que j'avais peut-être ce doute, en fait, de peut-être pas être fertile, je ne sais pas. Et du coup, j'ai été premièrement rassurée. Et puis, absolument pas, j'ai pas du tout dit « Ah, merde, je vais plus pouvoir voyager. Ah non, on va plus pouvoir faire de GR20, on va pas pouvoir faire d'autres défis sportifs. » Non, j'ai pas du tout pensé à ça, absolument pas.
T'as réussi à te projeter assez rapidement.
Ouais, très rapidement. Et puis, de toute façon, c'était une vraie volonté. Et puis, avec Guillaume, on était tout à fait prêts et on avait hâte. On avait juste hâte de commencer l'aventure. Et ce petit plus a été le début de l'aventure et... Après, on l'a vécu jour après jour, on l'a vécu avec énormément de plaisir et de bonheur. Et il n'y a pas eu une ombre au tableau pendant la grossesse, même si elle était courte au final.
Alors, raconte-nous un peu cette grossesse. Comment ça s'est passé les premiers mois ?
Et ben, vraiment pas très original. Hein, une grossesse tout à fait classique. Alors, peut-être pas trop classique finalement, puisque j'ai eu aucun symptôme. Donc, moi, clairement, à part le petit plus, j'avais aucune raison de croire que j'étais enceinte. Donc, il a vraiment fallu que j'aille chez le médecin pour qu'il me confirme qu'il y avait quelque chose dans mon ventre. Et donc, chaque examen, écouter le cœur du bébé, forcément... Ça c'est inoubliable la première fois qu'on entend le cœur de son enfant accompagné de son conjoint. Ça s'explique pas, ça se vit, c'est quelque chose qui rend tout réel en fait. Et je pense que c'est devenu. Enfin, j'étais enceinte depuis le début, mais là il y a eu une personne qui est née quand on a entendu son cœur. Et là on a compris. Et en fait, dès la première écho. Le gynéco s'est un peu avancé en disant honnêtement, y a quand même peu de doute, je suis quasiment sûre que c'est une fille. Bon, on lui avait rien demandé, nous, hein, on lui avait pas demandé de nous le dire. Et du coup, on s'est un petit peu focalisé là-dessus et puis on s'est dit oui, mais attends, c'est pas sûr. Donc nous, on était sûr d'avoir une fille au fond, même s'il n'était pas certain à 100%, on s'est mis en tête que c'était une fille. Donc honnêtement, si ça avait été un garçon, ça aurait été très étrange. Et puis j'ai continué à travailler. Je travaillais encore la semaine avant d'accoucher. Avant d'annoncer ma grossesse à mon employeur, personne ne s'en était rendu compte. Donc je la vivais à la maison, ma grossesse, et avec ma famille le week-end. Mais au travail, ça n'existait pas. Donc c'était assez bizarre d'avoir deux vies. D'être deux personnes différentes, quoi. J'étais Virginie au travail, normal, et puis Virginie, future maman, à la maison. Et puis le jour où j'ai réuni ces deux personnes en annonçant à mon chef ma grossesse, c'est bête, hein, on le lit, on n'y croit pas, mais le lendemain, mon ventre était sorti et j'ai plus jamais pu rentrer le ventre.
Ah oui.
Une fois que les choses sont dites, et que du coup je pouvais vraiment pleinement aller travailler en tant que femme enceinte puisque mon employeur était informé, mais vraiment je t'assure, c'était le vendredi soir, le lendemain je me suis réveillée avec un ventre bon, pas énorme, mais un ventre que je ne pouvais plus rentrer, quoi. C'était plus possible. Donc en fait mon bébé était assumé, quoi, devant tout le monde, toute la journée, toute la semaine.
T'étais à combien de mois de grossesse à ce moment-là?
J'étais à 4 mois de grossesse.
Et alors la suite?
Alors la suite, c'est que j'ai vraiment eu une grossesse de rêve, puisque je continue à aller à la salle de sport, je continue à, bon, peut-être pas courir, mais en tout cas à travailler et à être très dynamique. Et puis à partir de 5 mois et demi, j'ai commencé à avoir beaucoup de nausées. Alors je comprenais pas puisque je rentrais dans mon dernier trimestre, donc on m'avait toujours dit que c'était normalement le premier trimestre qui était une catastrophe, donc j'étais hyper contente de ne pas avoir vécu ça. Et mon ventre a commencé à être très 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 dur. J'avais pas de douleur, on peut pas dire, j'étais plutôt moi bien, à part les nausées. Honnêtement, j'avais pas de symptômes particuliers. Mon médecin a quand même voulu m'arrêter. Au début, je lui dis oui, enfin attends, là, tu vois, c'est la fin du mois, ils ont besoin de moi, pas tout de suite. Donc j'ai un peu repoussé mon arrêt, on va dire. Peut-être à tort, peut-être qu'aujourd'hui, je sais pas si ça aurait changé quelque chose, je suis pas sûre, mais on y pense forcément. Et puis au final, au début du sixième, enfin à la fin du sixième mois, puisque j'avais pile poil 6 mois, j'ai enfin pris mon arrêt de travail. Et j'ai appris à accepter de me reposer. Donc, c'était un peu difficile pour moi d'accepter d'être en arrêt de travail, parce que je me sentais plutôt bien. Par ces nausées, bien sûr, constamment, c'était un petit peu pénible. Et donc, du coup, j'ai passé en tout et pour tout une semaine d'arrêt. Et le vendredi matin de cette semaine d'arrêt, je suis même allée à la piscine, donc pour dire que je me sentais quand même bien. Donc je me suis dit, ça me fera du bien, ça va me délasser, puis je vais apprendre à me reposer. Et l'après-midi, je me suis dit, bah allez, tu ne fais rien, un petit thé Netflix, et c'est parti. Et puis bah, ce soir-là, en allant me coucher tout bonnement à 23h, en étant absolument pas fatiguée ni contrariée de quoi que ce soit, vraiment... Je me suis couchée, j'ai posé la tête sur l'oreiller et j'ai perdu les os. En un quart de seconde, tout a basculé ce jour-là, quoi. Donc, Guillaume m'attendait, il était déjà couché. Et puis, je me suis relevée d'un coup, j'ai pas compris ce qui se passait. Honnêtement, j'ai même pas pensé que je perdais les os. Je me suis dit, attends, tu t'es quand même pas fait pipi dessus, Virginie. Ça se fait pas. J'assumais pas. Mais je me dis, quand t'es enceinte, il paraît que c'est des choses qui arrivent. Mais à aucun moment, je me suis dit, elle arrive, quoi.
Parce que là, c'était les grandes os ou c'était une fissure
Bah écoute, quand je me suis allongée, on va dire que c'était pas les grandes os, mais bizarre, quoi, on va dire. Pas normal. Et puis quand je me suis levée pour dire, aller dans le couloir, et dire, est-ce que c'est sûr que c'est pas du sang? Parce que évidemment, tu penses à tout. Et que c'est quelque chose qui m'a quand même traversé l'esprit de plutôt perdre mon bébé que d'accoucher. Et quand je suis arrivée dans le couloir et que j'ai vu que c'était pas du sang, bah en fait je me suis, décontractée totalement en me disant, oh bah ça va, en fait ça va, c'est rien. Et puis en fait le fait de me décontracter totalement, il y a une marque qui est sortie de moi. Et du coup je me suis retrouvée dans un pédiluve là, à la piscine, je me suis dit tiens, comme ce matin. Et en fait là j'ai compris que peut-être c'était ça, c'était peut-être les os qui arrivaient.
Et alors tu fais quoi à ce moment-là? Vous faites quoi avec ton chéri?
Ah bah là, mon chéri est dans le coltard, comprenait pas trop ce qui se passait. Et je lui ai dit tout de suite, bah écoute, appelle les urgences. Et là, il me dit attends, et puis il commence à prendre son téléphone et taper, alors attends, perdre des os, 6 mois de grossesse, pour être sûr, pour se rassurer sur internet, que peut-être c'était pas, fallait peut-être pas appeler les urgences, c'était peut-être pas grave. Bref, on a fini par appeler les urgences qui nous ont dit évidemment de venir immédiatement. Et puis bah c'est ce qu'on a fait. On a préparé rien du tout. Enfin moi je suis partie en me disant bon bah attends, ils vont sûrement me faire des prises de sang, je vais mettre ce qu'il faut pour qu'ils. Enfin tu sais, la fille très organisée qui pense à tout. Et puis voilà, on est parti. On venait d'acheter une voiture neuve, donc du coup Guillaume a pris soin de bien la protéger pour pas que je salisse sa voiture. Enfin tu sais, des gens pas trop paniqués, quoi. On était ça va, on gérait la situation. Et puis du coup on s'est rendu aux urgences et là ils nous ont confirmé que la poche était rompue, mais que il y avait suffisamment d'eau pour que le bébé n'en souffre pas et que je termine ma grossesse alitée pendant 7 semaines minimum, quoi.
Là, t'avais aucune douleur, c'était...
Honnêtement, non, j'avais aucune douleur. Et puis le fait qu'il me passe le monitoring et que j'entende que mon bébé, le cœur allait parfaitement bien, qu'il n'était pas ralenti, que le médecin me dise, perso, le bébé, lui, il se rend compte de absolument rien. Bah, du coup, ça m'a détendue. Puis je me suis dit, si jamais tu stresses, tu vas compliquer la situation. Et en fait, le pire pour moi, ça a été de me dire, non mais je vais passer 2 mois à l'IT, c'était pour moi inconcevable d'affirmer ma grossesse de rêve à l'hôpital. Ça, c'était le plus dur à accepter, parce que, non quoi. Moi, j'étais bien chez moi, je prenais enfin plaisir à me reposer chez moi, et puis ça, ouais non, franchement, c'était pas du tout engageant de rester 2 mois à l'hôpital à l'IT, quoi. J'avais peur de... Surtout quand tu passes une grossesse idyllique, tu comprends pas pourquoi la fin se passerait comme ça. Et puis en fait, ils nous ont dit, bon bah par contre, pour vous hospitaliser, on peut pas vous garder dans un hôpital classique, il vous faut un hôpital de niveau 3, puisque bah, si vous accouchez demain, ce serait une très grande prématurité, donc au cas où, il faut qu'on puisse avoir les équipes autour. Et là en fait, ça m'a mis un petit coup de stress, parce que je me suis dit, comment ça, en fait je passe en grossesse à risque, en fait, et on m'a catégorisé comme grossesse pathologique, et franchement ça a été des mots qui ont été compliqués à accepter pour moi. d'avoir ce titre de grossesse à risque et d'accepter d'être hospitalisée ailleurs que dans l'hôpital que nous, on avait choisi, où j'avais visité une semaine avant les lieux, où je me sentais chez moi, quoi, en fait. Et du coup, on a eu peur, puisqu'il y avait très peu de place à Lyon, forcément, tout est très sollicité. Donc, ils commençaient à nous dire que je pouvais aller à Valence, à Saint-Étienne. Enfin, je me suis dit, mais comment en plus d'être alitée, je vais être loin de ma famille, c'est un peu compliqué, quoi. Ça commençait vraiment à me paniquer, de finir ma grossesse seule, loin de tout le monde. Et au final, on a eu énormément de chance, puisqu'ils nous ont trouvé une place à l'hôpital de la Croix-Rousse, à Lyon. Alors, évidemment, pour nous, c'était pas super pratique, parce qu'on était à Lyon-Sud et que c'était à Lyon-Nord, mais honnêtement, au vu de ce que ça aurait pu être, on était limite contents. Donc du coup, j'ai été transférée la nuit même, à 3h du matin, je suis arrivée à Croix-Rousse. Et puis là, surprise, ah au fait, vous êtes dans une chambre double, évidemment, parce que comme vous n'avez pas encore votre bébé, bah, vous n'avez pas de chambre pour vous, quoi. D'accord. Donc, ouais, donc la claque, elle a été là, donc c'est tout. Je me suis installée, Guillaume est reparti à la maison, il avait la mission du coup de me préparer bah, un sac hein, pour tenir 2 mois à l'hôpital. Et puis bah, il est parti et moi j'ai vécu ma première nuit loin de ma maison et du futur papa de ma fille. Et c'était, ouais, c'était un petit peu bizarre, mais on s'adapte, on fait le mieux. Déjà, on est déjà maman en fait à ce moment-là, on fait ce qu'il faut pour sa fille. Donc s'il faut être prêt de médecin capable de s'occuper d'un prématuré, on y est, puis c'est tout.
Et ta coloc était sympa ?
Elle était super sympa, elle s'appelait Marie et j'espère qu'elle m'entend parce que je lui ferais bien un petit coucou sympathique. Ma collègue était très sympathique, on était à 3 jours près exactement au même terme. Elle était là pour des contractions, elle n'avait pas perdu les os mais elle avait de fortes contractions et elle repartait normalement le lendemain. Et puis je me rappelle très bien, c'était le soir de l'élection de Miss France, le 14 décembre, et du coup on s'était prévu une petite soirée fille en se disant écoute hein, contre mauvaise fortune bon cœur, on a l'air d'être à peu près pareil, on s'entend bien, on attend toutes une fille pour le mois de mars, donc bah allez, autant se faire un petit séjour de copine, quoi. Donc du coup son mari lui amenait souvent plein de gourmandises et tout, donc elle dit c'est bon, je mets ça de côté pour ce soir et puis on se fait une soirée à Miss France. Je dis allez. Donc du coup c'est vrai que j'ai été pas rassurée, mais je me suis dit bon bah écoute, même si elle part demain et puis qu'après celle de derrière, peut-être ça sera pas la même là, aussi sympa ou quoi, mais en tout cas je me dis bon, tu vois, dans la vie il y a du bon partout, quoi, tu vois, t'as pas à être là, puis finalement t'es là, puis tu sympathises avec une personne, puis tu partages un peu ton stress et puis finalement ça se passe bien, donc voilà, on tire le meilleur de toutes les expériences ou tout ce qu'on met sur notre chemin. Et puis bah du coup ma collègue Marie était et faisait partie des points positifs on va dire de ce qui m'arrivait. Et puis en fait en discutant au fur et à mesure toutes les deux toute la journée du samedi, du coup elle me dit t'es quand même bizarre, des fois tu fais des têtes un petit peu bizarres. Je dis ouais, je t'avoue que j'ai un petit peu mal au ventre, à mon avis c'est le stress de tout ça, ou bien j'ai faim, j'en sais rien. Et puis en fait de 11h à 15h c'est vrai que j'avais mal au ventre, puis après j'ai plus mal au ventre, puis j'avais remal au ventre, puis j'avais plus mal au ventre. Et puis à aucun moment la fille a pensé que ça pouvait être des contractions, hein. Non, t'es enceinte, t'as perdu les os la veille, mais à aucun moment tu te dis que ça peut être lié en fait, parce que tu es dans le déni total, il est hors de question que tu accouches maintenant. Donc du coup j'ai mis ça sur le stress, clairement, parce que moi je suis quelqu'un qui réagit, qui a toujours mal au ventre quand on est un petit peu contrarié, donc bon, pourquoi pas aussi enceinte, hein. Et quand j'ai mangé, j'ai vu que finalement ça arrangeait pas grand chose, que j'avais toujours mal au ventre, donc j'avais enlevé la faim aussi, donc c'est pas la faim. Bon, le stress, je me dis bon, ça va mieux, donc ça doit pas être non plus le stress. Donc j'ai quand même demandé à une infirmière de passer. Et puis elle me pose des questions sur la régularité de mes douleurs et tout. J'ai dit où elle veut en venir celle-ci? Et puis du coup elle m'a mis un peu sur la voie et elle m'a dit je vais quand même vous ausculter juste comme ça pour voir. Bon bah vas-y, pas de problème. Ah bah écoutez, vous êtes dilatée à 4 cm et vous êtes en train d'accoucher, quoi. Très bien. Donc là ça a été une grosse claque là, clairement à partir de 15h là où elle m'a dit ça, j'ai plus trop compris ce qui m'arrivait. Guillaume n'était pas là en plus, donc c'était ouais, c'était bizarre. Il devait arriver dans l'après-midi, donc là ils m'ont dit bah appelez votre conjoint, et tout. Ouais, ouais, d'accord. Donc je l'ai appelé, Guillaume, zen, style de rien, ça va, oui, oui. Tu arrives quand? Oh, d'ici une heure ou deux. Bon, non, viens plutôt tout de suite, au cas où, au cas où. Donc il m'a dit bah pourquoi il y a quelque chose? Non, 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 mais juste comme ça parce que bah viens, tu me manques. Rejoins-moi. Donc j'ai essayé de pas le paniquer parce que bah il conduit et j'ai pas envie qu'il ait un accident parce que il sera en stress ou donc moi j'avais besoin que lui ne se doute pas forcément que j'étais en train d'accoucher ou qu'il pourrait manquer quoi que ce soit de l'accouchement et que ce soit mal vécu. Donc du coup je l'ai appelé et puis j'ai été réexaminée juste après. En fait ça allait très vite, j'étais déjà à 5 et là à ce moment là j'ai commencé vraiment à paniquer parce que en fait ils m'ont emmené dans l'ascenseur pour le quatrième étage et là je regarde sur les boutons de l'ascenseur, tu vois, c'est marqué salle d'accouchement. J'ai dit mais pourquoi on va au quatrième, en fait je comprenais pas, mais j'étais dans un déni mais total. J'ai dit mais pourquoi vous m'emmenez au quatrième étage? Bah vous allez accoucher madame. Et là, du moment où elle m'a dit ça, je crois que j'ai plus parlé. Et puis, je me suis commencé à pleurer en me disant, bah non, c'est pas maintenant, en fait. C'est pas possible, parce que ma fille, elle est pas prête, là. Elle est pas finie. Il faut la laisser cuire encore un peu, parce que là, c'est pas du tout prêt, là. Donc, du coup, les contractions devenaient presque ingérables aussi pour moi. Donc, entre l'idée d'accepter que j'allais accoucher plus... La souffrance que peuvent apporter des contractions, j'étais voilà, ça me dépassait un peu. Je franchement, ça allait un petit peu trop vite pour moi tout ça. J'ai rappelé Guillaume, je me suis calmée, j'ai soufflé et je l'ai rappelé en fait juste avant qu'il me pose la péridurale parce que l'infirmière j'aurais été derrière moi à tente de piquer pendant que j'étais en train de téléphoner. Et j'ai dit à Guillaume, bon, par contre, voilà, viens directement au quatrième étage. Il me dit, mais pourquoi? Viens au quatrième étage. T'inquiète pas, tout va bien, mais viens quand même au quatrième étage, au cas où. Et puis, du coup, là, après, ils m'ont fait la péridurale. Et quand l'infirme m'a dit, dans 15 minutes, c'est terminé, vous allez pouvoir revivre, entre guillemets, j'ai compté dans ma tête 15 minutes. Et en fait, elle avait vraiment raison, c'est-à-dire que là, en fait, on se rend plus, on se dit, oh bah d'accord, bah en fait, je vais accoucher. Bah écoute, eux, ils ont pas l'air paniqués, donc pourquoi je paniquerais? Bon, bah très bien, je suis au bon endroit, de toute façon, bon, voilà, donc pourquoi paniquer? Et puis en fait, tu deviens complètement stone, et bien quoi, donc tu souffres plus, et puis t'as plus peur. Donc, que demander de mieux? Et puis, c'est à cet instant-là que Guillaume a décidé de faire son entrée. Donc, lui, il m'a pas vu une seule fois paniquer, en fait. Cet accouchement, pour lui et pour moi d'ailleurs aussi, à partir de ce moment-là, ça a été du rêve, malgré les circonstances, si tu veux. On s'est fait une raison. Je lui ai dit, bah écoute, c'est bon, elle est là, quoi, elle arrive. Elle a pas envie d'attendre. Elle a pas envie que maman soit alitée pendant 2 mois. Elle dit, c'est maintenant, quoi. Donc on s'est préparé, on s'est regardé, on s'est dit elle va être minuscule. On s'est dit voilà, on pense à un petit chaton. Tout le monde a déjà vu un chaton, c'est minuscule, c'est voilà, ça crie pas, ça miaule, c'est tout petit. Et on s'est mis en tête que j'allais accoucher d'un chaton en fait. Et du coup, on se préparait vraiment à ça. Et je pense que ça nous a aidé du coup parce que quand elle est arrivée, bon, on s'est dit oh bah, c'est un chaton qui a bien mangé quand même parce que c'est quand même 1 kilo quoi. Et en fait, on a mis un peu de musique. Guillaume, il a commencé un peu à faire le chirurgien, tu vois. À taper un petit peu sur le clavier en vérifiant mes constantes. On a mis un peu de musique pour dire que notre fille, elle se dise « Ah bah, ce monde, il a l'air sympa. Ça se fait en musique. Enfin, » Du coup, il n'y a eu aucun stress. Même encore, là, je te le raconte, je ne sais même pas comment. Mais notre accouchement a été magique, vraiment. Parce que à partir du moment où on a accepté, le reste, il fallait faire les choses. Et puis, en plus, elle faisait les choses bien parce que elle poussait tranquillement. Son cœur, il était au taquet. Elle était vraiment bien, quoi. Et en fait, nous, on se fiait qu'à ça, à son cœur. Et tant que son cœur battait super vite et super bien comme il faut, nous, on était tout allait bien. Et puis, ça a été.
Et les sages-femmes disaient quoi à ce moment-là, du fait qu'elle soit grande prématurée, est-ce que ça a été évoqué
Alors, je vais te dire que j'étais pas tout à fait consciente de tout ce qu'on me disait à ce moment-là. Donc, je suis persuadée que les sages-femmes m'ont dit que j'allais accoucher d'une très grande prématurée. Je me rappelle qu'elles m'ont dit qu'elles allaient très vite l'emmener pour pas que je sois surprise. Elles m'ont dit, sachez que voilà, si on peut faire un accouchement par voie basse, c'est génial, on adore. Par contre, même si c'est un accouchement par voie basse, on va devoir l'emmener rapidement pour certainement l'intuber. Donc j'écoutais, hein, mais je suis pas sûre que je saisissais tout. J'avais juste moi retenu de ne pas paniquer quand on va emmener ma fille. C'est la seule information que j'ai retenue. Et que mon conjoint pourrait les accompagner. Donc limite, je me dis, bon, bah, je passe le relais à papa. Donc j'étais moyennement angoissée, quoi. Je me dis, bon, bah, très bien, c'est organisé, ils savent ce qu'ils doivent faire, on fait. Donc oui, les sages-femmes nous ont prévenus, mais presque c'était un accouchement normal, en fait, parce qu'ils étaient deux. Juste la seule chose, c'est que je me rappelle que dans le couloir, j'ai vu une couveuse arriver... avec trois personnes qui attendaient dehors. En fait, ce qui se passait, c'était dehors. C'était pas dans la salle d'accouchement. Donc, je pense que c'est la suite qui m'aurait fait comprendre que j'accouchais d'une grande prématurée. Mais dans la salle d'accouchement, rien présageait à ce que ce soit pas un accouchement classique, en fait. Tout se passait dehors. Et tant mieux pour moi. Mais oui, derrière, ça a été le branle-bas combat, je crois. Je pense. J'y étais pas, mais j'imagine.
Alors, comment ça se passe quand ta petite chérie débarque dans ce monde en musique ?
Eh bien, je pense que Guillaume a éteint la musique au moment où la sage-femme m'a dit de pousser. Il m'a tenu la main, je me rappelle très bien, parce qu'il était ébahi, tu sais, genre, il voyait, je sais pas, la septième merveille du monde en me voyant sortir sa fille. Et ça, c'était un moment vraiment génial. Et en fait, il a suffi de s'y pousser pour que Victoria voie le jour. Et là, après, ça a été très vite. C'est-à-dire que, comme si... elle a toujours fait ça. Hein, elle nous a toujours rassurés très vite, cet enfant. Elle a tout de suite pleuré, en fait. Enfin, miaulé, parce que c'était vraiment pas un pleur du tout. Elles l'ont posé sur moi.
Mais, ah oui, quand même.
Mais de dos, en fait. C'est-à-dire que je n'ai pas vu ma fille. Je l'ai vue de dos. Alors, je ne sais pas si le cordon ombilical était trop petit. Mais, enfin, ils me l'ont posé sur le ventre parce que... vraiment, elle était toute petite, tout était petit, en fait. Tout était en modèle réduit, en poly pocket, vraiment. Et ça m'a frustrée de ne pas voir le visage de ma fille, clairement. Par contre, j'ai vu ses cheveux, j'ai vu son dos, et j'ai osé toucher. Je ne savais pas trop si je pouvais, mais j'ai touché son dos. J'ai dit, ah, c'est super doux, cette peau de bébé. Et je me dis, tout est là, en fait. Elle a l'air de... Enfin, je ne me rendais pas bien compte de son gabarit. Je sais que quand ils me l'ont posé, je ne l'ai absolument pas senti. Mais... j'avais l'impression que c'était un bébé, quoi, que c'était qui est finalement pas de quoi s'en faire. Et puis bon, après tout de suite Guillaume a coupé le cordon et puis ils l'ont tout de suite emmené. Mais le fait de l'avoir entendu pleurer, moi, je me suis dit non, mais c'est bon, elle gère, elle a compris. Si elle pleure, c'est qu'elle respire, et si elle respire, c'est qu'elle va pas être intubée, et si elle est pas intubée, bah maman, on va bien. Et donc ils l'ont emmené, et puis après Guillaume donc les a suivis. Et ça a duré, je sais pas, au moins une demi-heure. Donc là, c'est la demi-heure la plus longue de ta vie, puisque tu sais pas ce qui se passe du tout. Tu n'entends rien, tu vois rien. Et tu es seule, en plus. Et en plus, on s'acharne sur toi pour t'enlever ton placenta qui ne veut pas partir. Donc, parce que le placenta, il a que 6 mois, il n'a pas du tout envie de partir.
Ah, mais oui.
Il est accroché. Et donc là, c'est très très long. J'attendais qu'une chose, c'est que Guillaume revienne. Ce qui s'est passé, donc il est revenu, je pense, au bout d'une bonne grosse demi-heure, pour me dire que elle avait pas été intubée, qu'elle respirait, qu'il avait fait le test de la marche, et qu'elle était belle et que ça allait aller. Enfin, il a été très rassurant, et lui, il est devenu papa tout de suite, et il a même pas vu que sa fille était branchée partout et qu'elle faisait qu'un kilo. Il a vu sa fille, il m'a dit non, elle est super, tout va bien. Tout va bien. Donc du coup, tout allait bien. Normal. Sauf que moi, j'avais besoin de la voir, évidemment. Et que l'installation en réanimation, c'est long, c'est très très long. Donc on m'a dit, non, mais vous retournez en chambre. Et on viendra vous chercher quand elle sera installée. Donc là, c'est très 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 long. Donc je pense que ça a au moins mis, après l'accouchement, au moins 2h30, 3h avant que je puisse voir ma fille. Et du coup, donc Guillaume restait avec moi et puis on nous a emmenés. Donc moi j'étais en fauteuil et on nous a emmenés jusqu'à sa couveuse. Et en fait là, on a découvert son monde à elle, qui n'était pas Jojo quoi. C'était vraiment, en fait c'était un champ de couveuse en fait de bébé mal en point. Et nous, elle faisait partie de ça. Donc comme je dis dans mon livre, en fait, on a l'impression que c'est une armée qui se bat pour vivre et qu'en fait, on se rend compte en y rentrant que notre fille fait partie de cette armée et elle n'est pas de l'autre côté de la barrière, elle est vraiment parmi eux. Donc on sent tout de suite quand on rentre en réanimation qu'on part vers quelque chose qui va nous dépasser et qui va être très 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 long. Donc en fait, on est passé de l'euphorie d'avoir notre fille et de devenir parent à qu'est-ce qui nous attend. On a senti que c'était un long parcours devant nous et qu'on n'était pas prêt à ça. On n'y était pas. De toute façon, on peut pas être prêt à ça.
Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Comment ça s'organise avec ta fille en réa?
Comment ça s'organise? Ben, en fait, on découvre son bébé à travers des hublots. Donc, c'est très frustrant puisque on peut pas la tenir dans ses bras. En fait, moi, je l'ai vue de dos sur moi. Et puis la fois où je l'ai revue, elle était sur le dos, branchée de partout, avec des scopes, avec tout. Et une micro-couche. Tu te dis, mais où est-ce qu'ils ont été chercher des couches aussi petites? Et puis voilà, avec des autocollants de partout, défigurés. Et puis surtout, je ne connais toujours pas le visage de ma fille à ce moment-là, puisqu'il y a un masque, même si elle n'est pas... intubée, elle a un énorme masque, une CPAP pour respirer, qui lui prend le nez, les yeux, ma fille, je la connais pas, elle a une sonde gastrique dans la bouche, donc en fait, ils auraient pu me mettre devant n'importe quel bébé que j'aurais pas reconnu forcément que c'était le mien. La seule chose que j'ai pu voir, c'est ses grands doigts, ses grands pieds, voir que tout y était, que le nombre de doigts était bien à sa place. Et puis en fait on se sent complètement impuissant parce que on regarde autour de soi, on voit que des bébés qui sont pareils, voire dans un état même pire parce qu'il y en a qui sont intubés. On voit du personnel qui est pas blasé, mais on sent que eux c'est leur quotidien, donc ils sont pas surpris d'une nouvelle entrée alors que nous c'est la fin du monde. Honnêtement, on est complètement perdu. Donc là, heureusement, une infirmière nous dit d'aller se coucher et de revenir demain, que de toute façon à ce temps-là, c'était au milieu de la nuit, il n'y avait pas grand-chose à faire de la laisser, qu'elle était sous de bonne surveillance, que tout allait bien, donc pas de panique. Et puis du coup, Guillaume m'a reconduit à ma chambre, mais lui, le pauvre, devait rentrer à la maison, donc on s'est séparés, en fait, on était une famille éclatée dès le premier jour, on venait à peine de devenir une famille que chacun était chez soi, en fait. Moi dans ma chambre, Victoria en réa et Guillaume à la maison, donc... c'était une drôle d'entrée dans la parentalité. On n'avait pas du tout envisagé forcément tout ça. Donc c'est violent. Et puis en plus, c'est très désagréable de dormir chacun de son côté alors qu'on est une famille qui vient de naître, quoi. Donc, surtout à 10 jours de Noël, c'est encore pire.
Et alors, à quel moment on t'explique tout ce qui va se passer, l'état de ta fille, quels sont les dangers, les...
Alors on a mis très longtemps avant de voir un médecin, ce qui est assez étrange, et puis après ça les a un peu surpris quand on leur a dit qu'on n'a vu personne nous avant au moins une bonne semaine. Alors les infirmières sont là au quotidien, et au quotidien elles nous expliquent ce qui s'est passé dans la nuit, dans la journée, elles nous expliquent ce qu'elles vont faire, les prochaines étapes, mais alors est-ce que c'est de la protection pour les parents, parce que je sais pas si on aurait supporté qu'on nous dise ce qui nous attendait, mais en tout cas, à aucun moment, on a compris ce qui allait nous arriver et le temps que ça allait prendre. Donc, nous, la seule chose qu'on savait, c'est que notre fille avait besoin d'être en réa pour être contrôlée jour et nuit. Et pourquoi ? Parce que sa prématurité, notamment, lui empêchait d'avoir une respiration classique, puisque... Elle pouvait oublier de respirer tout simplement, en fait. C'était pas un automatisme quand on est à 29 semaines. On comprend pas qu'on respire sans y penser, on oublie. Donc c'est un peu chiant. Entre autres, il y avait ça. Et puis vérifier que toutes les fonctions cérébrales fonctionnaient, qu'elle se nourrissait, qu'elle arrivait à. Enfin, se nourrissait. On va dire qu'on lui mettait une seringue. directement au fond de sa gorge et puis qu'on remplissait mécaniquement tout simplement. Donc ma fille, pendant des semaines, elle n'a pas connu le goût du lait, tout ça. On lui mettait 4 ml de lait, son repas c'était une seringue de 4 ml de lait qui mettait une heure à passer dans son estomac.
Et du coup, c'était ton lait ?
Alors, au début, ça ne pouvait pas être mon lait, puisque, tu sais, au début, tu n'as pas de lait. Il faut 2, 3, 4 jours avant qu'il y ait une montée de lait. Il y avait donc mon colostrum qu'on lui donnait, parce que ça, c'est essentiel pour devenir un super-héros, n'est-ce pas ? Et donc, du coup, moi, si tu veux, c'est pareil, l'allaitement, c'était pas du tout dans mes plans, quoi, parce que... Enfin, ça faisait partie clairement des contraintes. Quand je voyais mes copines allaiter, je me disais, c'est pas possible, quoi. T'as un lardon qui est accroché à toi tout le temps. T'as plus de féminité, t'as du lait partout. Moi, c'était pas du tout dans mes plans. Et en fait, du jour où j'ai accouché, où on m'a dit, vous savez, pour les très grands prématurés, vous ferez jamais rien de mieux que votre lait, quoi. Bah là, forcément, tu te poses même pas la question. Donc le problème c'est que bon l'allaitement c'est super sympa quand c'est ton bébé qui tète, mais quand c'est une tireuse qui tète pour toi, c'est juste affreux. Mais j'ai voilà, donc du coup moi toutes les 2 heures, 3 heures, je me mettais sur cette machine et je donnais tout ce que je pouvais. Et ensuite ton lait doit être contrôlé pour être sûr qu'il n'y ait pas de bactéries et tout. Donc ça prend un bon 8 jours avant que ta fille puisse avoir ton propre lait. Et en attendant, elle a du lait quand même maternel. Donc au début, ça m'a choquée, quoi. Je dis, mais sur la seringue, c'est marqué lait maternel, mais de qui ? Enfin, c'est moi, sa mère. Donc c'est pas normal, vu que j'ai pas encore donné mon lait. J'ai pas encore de lait. Et donc c'est des dons, tout simplement, de mamans qui ont la chance d'avoir énormément de lait et qui ont la sympathie de le partager au lieu de jeter. Et puis bah, voilà, c'est ces genres de mamans qui sauvent... qui sauvent nos bébés aussi, donc ça m'a vachement... Déjà, en fait, ça a commencé là, ça m'a... Au début, ça m'a choqué que ma fille boive du lait d'une autre femme. Ça m'a fait mal au cœur, en fait, mais vraiment. Et puis, au final, je me suis juste dit que elle sauvait ma fille, et ça m'énervait de pas pouvoir remercier ces femmes, parce que, évidemment, c'est anonyme. Et au bout de 8 jours, quand sur la seringue, tu vois lait personnalisé, voilà, t'as l'impression que t'as gagné la Coupe du Monde. C'est... Voilà, ta fille boit ton lait, enfin elle le boit pas, mais en tout cas elle reçoit ton lait, elle reçoit tes anticorps, elle reçoit ta force, elle reçoit tout, quoi. Et ça change tout. Ça change tout. Pour elle, rien particulier, mais quand ça devient ton lait, tu deviens maman, en fait, tu deviens maman aux yeux de l'hôpital. C'est-à-dire que tu deviens indispensable, puisqu'on va te demander de nourrir ta fille, d'amener des quantités tous les jours. Et il n'y a que la maman qui peut le faire, donc c'est génial.
Alors, tu disais que tu avais attendu une semaine pour avoir plus d'explications. Comment ça s'est passé à ce moment-là ? Tu es rentrée chez toi déjà, j'imagine, entre-temps ?
Tout à fait. En fait, au bout de 3 jours... prématuré, pas prématuré, y a la queue derrière. Donc, on te remercie de rentrer chez toi, sans ton bébé, bien sûr. Ça a été un nouveau coup dur, puisque moi, j'avais la chance de descendre 2 étages et de me retrouver en réa avec ma fille. Sauf que là, on m'a dit « rentre chez toi ». Et moi, je j'avais pas envie de rentrer chez moi, parce que j'imaginais pas dormir loin de ma fille, si loin en tout cas, parce que là, par exemple, la nuit, je me levais, je pouvais aller la voir en réa, il y avait pas de souci, enfin, je pouvais nuit et jour être auprès d'elle. Ça a été très très dur pour moi de quitter l'hôpital, ça a été une première cassure vraiment de la laisser et de partir, j'avais vraiment l'impression de l'abandonner. Mais évidemment, je venais tous les jours, donc j'avais mon rituel, c'est même un rituel... un peu lourd, hein, puisque ben voilà, tu te fais ta première tétée du matin, ensuite j'y allais en bus parce que quand tu vas à l'hôpital de Lyon, t'as pas de place pour te garer dans l'hôpital, puis quand t'as une place, tu t'en tires pour 40 euros de parking par jour, donc à un moment donné tu dis bon, je vais aller en métro, donc tu prenais 1 heure de métro, t'arrivais avec ton lait dans son petit congélateur portatif pour ramener à ta fille, t'arrivais à l'hôpital, bon bah c'était l'heure de retirer ton lait, et puis après enfin je pouvais m'installer, bon la plupart du temps elle dormait évidemment. Et puis quand t'arrives, bah, tu fais le point tout de suite avec son infirmière du jour, qui n'est jamais la même, hein, puisque c'est des équipes, ils sont plus de 150 personnels dans le service. Et puis on te dit, bon bah voilà, elle a fait 5 événements cette nuit, stimulée. Donc là tu sais que c'est pas bon. Alors au début tu dis un événement, c'est-à-dire elle fait une partie, elle fait une fête, qu'est-ce qu'elle a fait, une bêtise. Donc en fait un événement, non, ça correspond à un arrêt respiratoire tout simplement. Et stimulée ou pas, c'est-à-dire que soit elle a compris qu'elle respirait pas et elle a eu la force de se reprendre toute seule, soit ils ont été obligés d'intervenir et de la solliciter, de la stimuler, voire de lui remettre un peu d'oxygène, des choses comme ça. Donc on fait le bilan tous les matins de la nuit qui s'est bien se passer. Et puis bah, on reste jusqu'au soir, hein, jusqu'à ce que Guillaume finisse son travail, me rejoigne vers 18h, 19h, et puis vers 22h on rentre à la maison, épuisé, et puis on revenait. Enfin voilà, ça a été une routine. Alors moi qui avais peur justement de devenir parent pour tomber dans une routine, dans quelque chose de compliqué, je peux te dire, j'ai pas été déçue. Mais de toute façon, il n'y avait aucune autre option. Je n'envisageais pas une seconde, une journée sans ma fille. C'était impossible. Et puis, bah, quand on avait de la chance, elle ouvrait les yeux. Et puis, elle me regardait. Et puis là, c'était sympa. Quand elle ne dormait pas, c'était très sympa. C'était pas souvent, mais c'était très sympa.
Et donc, à quel moment t'as expliqué tous les tenants et aboutissants de la prématurité de ta fille ?
Au bout d'une semaine, on a été reçus par un médecin, le médecin du service, qui nous a expliqué un petit peu la suite du programme. Après, je pense que moi, je me suis protégée et autant Guillaume, lui, avoir de l'information le rassure beaucoup, autant moi, à ce moment-là, j'étais plutôt en mode autruche. J'avais pas forcément envie d'entendre les risques que ma fille encourait parce que j'y croyais pas. Moi, j'étais persuadée qu'elle avait la force de se relever et que tout ça, ça nous concernait pas, en fait. Nous, on était là, mais c'est une erreur de parcours, mais nous, on vous emprunte une couveuse et on s'en va. On vous revoit pas après, on vous aime bien, mais vous en faites pas. Nous, notre fille, elle n'est pas concernée par tout ça. Elle aura pas de retard, elle aura pas de maladie. Non, laissez tomber, ça m'intéresse pas. Donc moi, j'étais beaucoup dans le rejet total des effets secondaires de la prématurité. Donc bah voilà, on nous explique tout, hein, sur les risques, sur la suite, sur le fait que notre fille va être suivie pendant 7 ans en tant que prématurée, qu'il y aura des rendez-vous particuliers, qu'il faut choisir un pédiatre spécialisé, que ça va être tous les mois, qu'il va falloir, pour qu'elle passe les hivers, comme ils disent, lui faire des injections de Synagis pour qu'elle puisse ne pas être impacté par les microbes des autres enfants de son âge et de l'hiver notamment. Et puis on nous explique qu'il faut éviter absolument la collectivité. Là on s'est dit, c'est-à-dire, bah, par exemple, déjà la crèche, vous y pensez pas une seconde, bon, très bien. Quant à la nounou, oui, à condition qu'elle ait que Victoria. D'accord. Donc nous, évidemment, on avait déjà notre nounou, qui était en plus une femme géniale, qui avait forcément d'autres enfants, hein, que Victoria. Et là, on a pris un coup dans la tête, parce que je lui ai dit, oui, enfin, d'accord, mais enfin, moi, je travaille, je reprends le travail aussi. À un moment donné, je vais reprendre le travail, donc on était un peu perdus. Et puis après, on nous a dit, bon, bah voilà, on peut pas vous donner une date de sortie, c'est la question de tous les parents, mais ne nous la posez pas, parce que, de toute façon, comptez au moins jusqu'à son terme. Et là, ouais, d'accord, son terme, c'est dans longtemps, en fait, c'est dans 2 mois et demi, donc là, c'était une grosse gifle, parce que je me suis dit, on va rester 2 mois et demi ici, enfin, elle, surtout, va rester 2 mois et demi ici. Et puis après, il nous dit, oui, c'est à plus ou moins 15 jours, quoi. Il y a des bébés, ils sortent 15 jours avant leur terme, d'autres, ils restent plus longtemps, ok, très bien. Et puis en fait, au-delà du discours des médecins sur la suite, c'est surtout la salle des parents qui va te montrer qu'en fait, il n'y a pas de règles, puisqu'on a découvert cette salle des parents et tous les parents qui vont avec, bien sûr. Et là, on voit qu'il y a de tout, quoi. Il y a absolument de tout. Et puis on rencontre des mamans qui sont là depuis 6 mois. On rencontre des bébés qui sont nés, qui faisaient 500 grammes, et puis finalement qui avancent plus vite que notre fille qui fait 1 kilo, et puis on commence à comparer, on commence à savoir exactement le poids au gramme près de chaque bébé, et de se dire, mais comment ça se fait que que toi, ils t'ont donné une date de sortie, pas moi. Ah bon, toi, ils te font les vaccins, mais nous, ils nous ont pas proposé. Enfin bref, on commence à partir dans une psychose totale de comparaison, ce qu'il faut absolument éviter parce que bah, c'est comme ça qu'on perd le moral. Parce que chaque bébé est unique et chaque parcours de prématuré est unique. Et puis ensuite, on fait connaissance avec SOS Préma. Tiens, ils font un goûter pour Noël. Guillaume dit, viens, bah, on y va, quoi. Ouais, je sais pas de quoi on va parler, de bébé malade. Non, moi, je veux pas, ma fille, elle est pas malade. Elle est juste née un peu en avance et tout. Et puis on y va, et puis on entend les discours des mamans, et on se dit, oh là là, mais non. Moi, je veux pas faire partie de ce gang, en fait. Moi, j'étais dans un vrai rejet d'appartenance. Je voulais pas appartenir à ce groupe de parents désœuvrés, quoi. Vraiment pas. Non, j'acceptais pas ça. Je ne voulais pas. Moi, je voulais être, maman de Victoria qui va vite sortir de là et qui ne parlera plus jamais de prématurité de sa vie, quoi. En gros, c'était mon but. Et puis après, pareil, dans la salle des parents, il y avait une famille qui avait décidé de faire un album photo de son parcours, du parcours du bébé, de la réa jusqu'à sa sortie. Et en fait, j'ai pris ce livre bêtement parce que ça m'a. En fait, je me suis effondrée devant ce livre parce que j'ai vu ma fille et je me suis dit, mais c'est trop tôt pour moi, je peux pas voir tout ça, toutes ces histoires. Alors, oui, la fin, elle est sympathique puisqu'il est sorti, le bébé. Mais en fait, en bouquinant, je me suis rendue compte de toutes les étapes qui nous restaient. En fait, c'est comme ça vraiment que j'ai compris, vraiment. Notre parcours à venir, c'est pas par les médecins, c'est pas par les parents, c'est par ce livre qui était sur la table et qui montrait en photo, étape après étape, ce qu'un prématuré allait vivre pour pouvoir avoir la carte de sortie. Vous pouvez rentrer chez vous, quoi. Et franchement, c'était pas super réjouissant.
Et alors, combien de temps ça a pris tout ça jusqu'à la sortie de ta fille? Comment ça s'est déroulé après toutes les semaines?
Eh bien, donc on ne savait pas encore, mais on était parti pour 77 jours de haut et de bas. On va dire que la première bulle d'oxygène, ça a été qu'on a eu le droit aux visites au bout de 8 jours. Donc elle avait le droit de voir 2 personnes par semaine pendant 15 minutes. Donc forcément, ça a été ses grands-parents, évidemment. Et en fait, c'était assez fou d'amener des gens avec nous, de les faire passer par la petite pièce pour les habiller, de la tête aux pieds, de leur expliquer que voilà, il fallait vraiment rentrer aucun microbe dans le service, qu'il y avait plein d'interdits, qu'il fallait pas toucher ses cheveux, qu'il fallait rien ramasser par terre, qu'il fallait rien. Enfin, c'était très protocolaire. Et en même temps, on était surexcités d'emmener nos parents voir notre fille. On était hyper fiers et en même temps anxieux parce qu'on se dit pourvu qu'ils ne soient pas effrayés, parce qu'on ne sait pas comment les gens peuvent réagir, même eux-mêmes ne savent pas d'ailleurs. Et donc du coup, ça a été dur parce qu'au final, nous, on se sentait très forts à deux. Et puis finalement, de faire rentrer du monde avec nous dans cette aventure, bah, déjà les pauvres, on les obligeait à vivre tout ça avec nous, parce qu'eux étaient aussi inquiets que nous, ça c'est sûr. Et puis en même temps, on était déçus, tellement déçus que ça se passe comme ça, parce qu'on avait rêvé des présentations, de faire une petite fête, on avait tout organisé, une baby shower, on avait fait tout un truc pour que ce soit... Voilà, c'était la première petite fille des deux côtés. Donc c'était... Puisque mon frère avait un petit garçon, donc c'était la petite fille, la première. Et donc du coup, c'était un mélange d'émotions assez difficile à gérer. Et puis bah après, les grands-parents ont été, ils ont été submergés d'amour. En tout cas, ils nous ont montré ça. Ils nous ont pas montré leur inquiétude ou le fait de voir leur fille comme ça, leur petite fille à travers un hublot et où ils nous ont pas montré quoi qu'ils ont été choqués par sa taille, parce que voilà, elle était vraiment voilà. En plus, au bout de 3 jours, on repère du poids quand on est, donc elle était passée en dessous les 1 kg. Elle était branchée de partout. C'était surtout ça qui était plus que son poids. J'ai envie de dire que c'était tout son matériel, tout son attirail qui était choquant. Et non, eux, ils n'avaient qu'une envie, c'était de passer une main dans le hublot. Bon, ils n'avaient pas le droit, mais on sentait que l'amour était là et qu'ils voyaient leur petite fille et non pas un bébé malade. Et donc, du coup, ça nous a fait et du bien et du mal parce que on s'est senti un peu fébrile quand même d'amener avec nous nos parents. On s'est mis un peu en position d'enfant, alors que jusqu'alors, on était les parents de Victoria. Mais avec nos parents, avec nous, on est devenus des enfants. C'est assez bizarre. C'était un mélange très, 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 très étrange. Et puis, petit à petit, de semaine en semaine. Alors, les visites n'ont jamais évolué. C'était toujours deux visites de 15 minutes par semaine. Donc, c'était assez compliqué parce que si jamais il y avait un tonton qui venait, du coup les grands-parents ne venaient pas et du coup ça faisait deux semaines sans voir la petite. C'était difficile de prendre son tour entre guillemets. C'était assez frustrant. Et puis de semaine en semaine, je vais vous dire très clairement, n'importe quel parent de préma sera d'accord, je pense. Le poids, il n'y a que ça qui compte. C'est on en est où au niveau du poids, on en est où si elle perd même 20 grammes, c'est la panique. Si elle prend 5 grammes, c'est l'explosion de joie. Enfin, c'est des bonheurs, des plaisirs très simples. Et quand même, de semaine en semaine, il y a plein d'étapes qui font que on reste positif, puisque déjà on quitte la réanimation et on passe en soins intensifs. Et là, on se dit, youpi, ma fille, elle part en soins intensifs, ça veut dire que c'est mieux.
Au bout de combien de temps elle a quitté la réa?
Alors, Victoria, elle a quitté la réanimation au bout de 10 jours, donc juste au moment de Noël. Donc, c'était un super cadeau de Noël. Donc, même si elle a beaucoup manqué au repas de Noël, on y est allé le soir même, après le réveillon. Et là, on a vu que SOS Préma avait mis des petits paquets cadeaux à chaque couveuse. Enfin, c'était vraiment super symbolique et super sympathique. Et on nous apprend que Victoria va être transférée en soins intensifs. Donc là, c'était génial. Et puis, en soins intensifs, elle est restée 7 semaines. Donc, c'est quand même long. Parce que nous, on vise évidemment la néonate. La néonate, c'est la porte de sortie. Quand tu es en néonate, c'est un bébé qui va plutôt bien. Et donc, les 7 semaines de soins intensifs ont été lourdes parce qu'elle continuait à grossir, donc tant mieux. Mais elle continuait à mal respirer. Et puis à pas très bien manger, c'est-à-dire que là, une étape formidable, c'est quand on te dit qu'on va te mettre ta fille en peau à peau. Encore mieux qu'on va te faire téter, on va essayer, et que tu te rends compte que ta fille, en fait, elle a tout compris, c'est un missile, la tête chercheuse, et qu'elle a tout de suite pigé que pour manger, c'était là. Et nourrir ta fille, c'est même ça, tu vois, c'est un peu comme... Comme au début, ne pas vouloir d'enfant, ça aurait été une erreur. Ne pas vouloir allaiter, ça aurait été une erreur aussi, parce que je m'en suis pas remise, quoi. Je pense que c'est le moment le plus fort de ma vie. Encore aujourd'hui, c'est encore pire que l'accouchement, ça a été d'allaiter ma fille. Surtout quand c'est un tout petit bébé, en fait, qui n'est capable de rien faire par soi-même. C'est un bébé qui est assisté pour tout. Pour respirer, pour changer, pour tout. Et pour la première fois de sa vie, j'ai vu ma fille faire quelque chose de façon autonome. Bété. Et donc ça, c'était grandiose. Et donc du coup, toutes ces étapes font que, ta fille est encore en soins intensifs, c'est super dur, c'est pas normal, elle est encore branchée de partout, mais petit à petit, on va lui enlever son masque et puis on va la passer en petites lunettes. Alors déjà, elle est moins défigurée, tu vois ses yeux, tu vois ses cheveux, tu commences à prendre son visage. Et puis, à un moment, tout va bien, elle grossit, elle mange, et puis tu sais pas pourquoi, dans la nuit, elle te fait un arrêt, et puis on repasse en plage d'air ambiant, enfin, on arrête les plages d'air ambiant, et on la repasse en masque, tu la mets au sein, elle se débrouille super bien, et puis d'un seul coup, elle te fait un arrêt cardiaque sur toi, pendant qu'elle mange, et là, tu paniques, tu sais, enfin... Honnêtement, ça a été un yo-yo émotionnel pendant 77 jours. Il n'y a pas eu un jour où on s'est senti soulagé en se disant « Ouais, non, on est sur la bonne voie ». Mais tu sais que même 10 jours avant sa sortie, la sortie était programmée avant, la sortie a été annulée parce qu'elle nous a refait encore des événements et qu'elle ne savait plus manger sans s'étouffer en fait. Tu sais pas pourquoi. Un bébé prématuré, il avance, puis d'un seul coup, il a décidé que non, finalement, ça va trop vite. Je reviens en arrière. Donc, elle nous a tout fait, tout. Et à un moment donné, je sais qu'une fois, c'est arrivé qu'une fois, mais je m'en rappelle parce que je m'en veux, mais j'en ai voulu, en fait. Je lui dis, mais tu joues à quoi en fait? Tu sais faire, pourquoi à un moment donné t'arrêtes? Et pourquoi tu veux qu'on reste ici? Pourquoi tu veux pas rentrer à la maison? Et c'est dur parce que on annonce nous aussi aux gens, ça va mieux, ils nous ont parlé d'une sortie, on a une date, on est super content. Et puis finalement, que dalle, la sortie est annulée, on te le dit avec plus ou moins de tact en plus. Et tu te dis, je vais jamais m'en sortir en fait, je vais jamais sortir d'ici. Et puis finalement, bah, t'en sors et puis t'es bien heureux, même si tout le monde n'a pas cette chance-là, puisque évidemment, dans la salle des parents, on a tout connu aussi. Quoi. On a connu énormément de gens qui sont sortis avant nous, pour des bébés nés après nous, donc ça c'est dur à avaler. On a connu des parents qui sont sortis sans leur bébé, et ça c'est atroce parce que bah, on a envie d'être là pour eux, puis en même temps on a envie de leur dire « Oh là là, mais allez, pleurez pas devant moi, chacun son chagrin, j'arrive pas à gérer le vôtre en plus du mien. » Enfin, et puis on a des parents qui se sont fait une raison, on a surtout une doyenne qui était là depuis 6 mois, et qui dit « Ouais, bon, bah, de toute façon, maintenant, j'ai pas le choix, c'est comme ça. » Et puis qui sont résignés en fait, qui sont résignés. Enfin, on connaît de tout. Et puis on se dit, voilà, à quand mon tour, quoi. C'est, on ne pense qu'à ça, à la sortie, on n'en peut plus. Mais vraiment, tu sais, même les infirmières, on peut plus les voir, quoi. Les pauvres, elles nous font, mais ne serait-ce qu'une petite réflexion, parce que, pourquoi vous l'avez sortie de sa, pas de sa couveuse, mais de son berceau, puisque après elle passe en berceau, et ça, c'est encore une étape super géniale, parce que enfin ton bébé n'est plus derrière des vitres. Ben, je l'ai prise parce que j'avais envie, j'en avais besoin en fait. Je suis sa mère, j'ai un bébé depuis des semaines et je ne l'ai jamais dans les bras. Et là, j'ai senti que je pouvais la prendre dans mes bras, donc excusez-moi si je suis un peu sortie du protocole. Mais là, je pense pas que je fais du mal à ma fille, elle dort sur moi, elle me fait du bien et je lui fais du bien. Donc tu supportes plus rien, plus aucune réflexion de l'infirmière, plus rien. C'est dur, la fin est très dure.
Est-ce qu'il y a un suivi psychologique pour les parents pendant toute cette période?
Oui, tout à fait. C'est proposé, en fait. Il y a une psychologue pour ce service, pour les parents de ce service. Bon, Guillaume et moi, on n'est pas super fans de raconter à une psy nos soucis. On a l'impression qu'à nous deux, on s'en sort très bien. Mais on s'est dit, écoute, là, on vit quand même quelque chose qui nous dépasse. On va pas faire les fiers et on va quand même répondre à leurs sollicitations parce que, mine de rien... moi j'ai perdu mon statut de femme enceinte en un claquement de doigts sans rien comprendre de ce qui m'arrivait. J'ai eu le ventre vide du jour au lendemain et pas de bébé dans les bras, donc je pense que très clairement j'ai été traumatisée, mais que je mettais pas de mots dessus. Et c'est eux qui ont mis ce mot là en disant vous venez de vivre un traumatisme. Et en fait ça m'a mis une claque de l'entendre de la part de la psy. Donc avec Guillaume, on s'est dit, écoute, on y va au moins une fois, on va voir ce que ça donne, et on va voir si ça nous fait du bien, tout simplement, parce que on n'était pas prêt à ça, et on n'est pas surhumain, donc on va tenter. Donc on est allé voir la psychologue, on a parlé, voilà, comme on aurait pu faire dans notre salon, hein, avec Guillaume, on parle de tout, on se dit tout. On n'a pas trouvé un réconfort particulier, parce que, je pense qu'on se l'a porté mutuellement, et puis... Et puis qu'on a pris conscience des choses au fur et à mesure, sans stresser, sans être chamboulé. Et surtout, en fait, je pense qu'on était dans l'acceptation, au final. Et que c'est grâce à ça qu'on s'est pas senti déprimé ou apeuré. Et donc, du coup, on a fait, voilà, on est allé voir la psy une fois pour dire on l'a fait, mais ça nous a pas convaincus plus que ça. Mais effectivement, oui, il y a un suivi psychologique pour les parents. Et tant mieux, parce qu'il y a des parents qui n'ont pas cette chance d'être deux, déjà. Il y avait beaucoup de mamans célibataires qui vivaient ça seules, quoi. Enfin, c'était dur, même si, oui, elles ont une sœur partie par là, elles ont des amis, mais quand on n'a pas le papa, c'est compliqué, quand même. Donc, heureusement, oui, il y a un service psy pour nous.
Et justement, comment ça s'est passé au sein de ton couple? Parce que traverser tout ça à deux, j'imagine qu'il y a des hauts et des bas, chacun se cède à un moment et quand l'autre flanche.
Tout à fait. Bah, en fait, on est un petit peu pareil, donc on a du mal à montrer à l'autre que ça va pas, parce que on a envie que ça aille. On n'a pas envie de tirer l'autre vers le fond. Mais forcément, dans un parcours de prématurité, tu peux pas être fort du premier au dernier jour, c'est impossible. On a eu la chance, c'est d'être d'être pas fort et faible en même temps. À chaque fois. Si moi, je me sentais vraiment démunie. J'en voyais pas le bout. Lui était très positif. Et inversement, bien que lui, au final, quand j'y pense, en pensant à ta question, il a pas beaucoup montré qu'il était à bout. Il a vraiment tenu, en fait. C'était vraiment un rock. Il allait travailler tous les jours. Et puis, tous les soirs, il était à l'hôpital. Et puis, tous les lendemains matin, il retournait travailler. Tous les week-ends, il était à l'hôpital. Et en fait, il s'est mis la mission, je pense, de rester fort pour toute la famille. Il s'est mis vraiment en père de famille. Et il m'a rarement montré qu'il en pouvait plus. Très très rarement. J'ai un peu, je pense moi, un peu plus eu besoin de son épaule, même si on a, voilà, je savais bien qu'il n'avait pas besoin de dire ou de pleurer ou de, pour que je sache que là il en avait un petit peu gros sur le cœur. Et en fait, on a essayé, et je pense qu'on a plutôt bien réussi, on a essayé de continuer à avoir une vie. C'est-à-dire que quand Victoria est née, on a, comme tous les Noëls, on prévoit de faire un petit Noël avec nos amis qui ont des enfants. Et en fait, on est trois couples d'amis et les trois femmes étaient enceintes en même temps. Et du coup, les deux autres mamans venaient d'accoucher également, mais elles étaient avec leur bébé. Donc, on n'a pas annulé notre petite soirée de Noël parce qu'on s'est dit non, on a besoin de voir aussi des bébés qui vont bien. Même si on savait que ça allait être très dur, on avait besoin de nos amis. Donc, on a continué. On n'a pas annulé cette fête de Noël. Et puis ensuite, il y a eu la Saint-Valentin. Et on va fêter la Saint-Valentin. On va se faire notre soirée sushi champagne parce que ça nous fait du bien. Et puis on va, l'espace d'un instant, juste oublier les soins intensifs. Pas longtemps, mais exceptionnellement ce soir-là. On va pas rentrer à 22h, on va rentrer peut-être à 19h. Et puis on va avoir une soirée pour nous. Et puis on a essayé, même si on était tous les jours à l'hôpital, on a essayé de s'accorder des petites soupapes. Et ce qui fait que notre couple, au final, il y a vraiment gagné parce que quand on est sorti de la prématurité, on s'est dit je pense que là, il peut nous arriver n'importe quoi. Et c'est pour ça que là, avec les épreuves qui s'en suivent, on est hyper confiant sur notre couple. Et c'est pour ça que on s'est mariés très vite après.
Et alors, ce fameux jour de sortie ?
Alors écoute, ça s'explique pas, c'est le 29 février, hein, tu sais, notre fille elle est pas du tout têtue, non, moi je sortirai le 29 février, comme ça vous ne fêterez pas l'anniversaire de ma sortie l'année prochaine, je choisis d'aller jusqu'au bout du mois de février, je l'ai commencé, je le finis, donc en fait lorsque tu es en néonat, tu as la possibilité d'aller en unité kangourou, quelques jours, en gros... c'est un pré-maison, quoi. C'est-à-dire qu'on va débrancher ta fille, on va arrêter de suivre son cœur et on va juste la laisser avec sa maman dans une chambre. Et puis, on va essayer de mener une vie normale, mais avec quand même une infirmière pas très loin, au cas où. Donc, du coup, on était ravis d'avoir cette option parce que le retour à la maison, quand ça fait 77 jours que ta fille est branchée, que la première chose que tu fais quand tu viens voir ta fille, c'est avant même de la regarder, tu regardes ses écrans pour être sûr qu'elle est bien. Le jour où il n'y a plus d'écran, tu comprends pas quoi, t'es perdu. Donc on était content d'avoir cette option de l'unité kangourou pendant 2 jours. Et quand l'infirmière vient débrancher le scope de ta fille, je sais pas si tu es heureuse ou inquiète, mais en tout cas, t'es perturbée, ça c'est sûr. Et puis du coup, ils débranchent le scope et ils nous disent « Écoute, dans 24 heures, si mademoiselle ne nous a rien fait, aucun événement, rien du tout, madame rentre chez elle, quoi. » D'accord. Donc du coup, là, j'ai un peu paniqué parce que la nuit, tout ça, je me dis « Bon, c'est surtout la nuit, t'as peur. » Tu te dis « Est-ce qu'elle va respirer ?» Donc la nuit, la dernière nuit d'hôpital, pour moi, elle était compliquée parce que j'avais besoin de poser ma main sur elle pour être sûr que son ventre, il est sans loin. Et puis le lendemain, donc Guillaume a pu dormir avec nous cette nuit-là, donc c'était notre première nuit en famille, à l'hôpital, tous les trois. Et le lendemain matin, nous on était sur le pied de guerre, c'est bon, elle allait bien, elle était réveillée, elle était lavée, habillée, nous pareil, on avait tout replié, les draps, tout, on était prêts à partir, il était 8h. Et l'infirmière vient, elle dit « Oula, vous êtes déjà prêts ?»« Ah bah oui, évidemment, nous, on nous a dit on rentre quoi !» Et du coup, le médecin est venu valider la sortie. Et là, Guillaume est parti chercher le cosy, quoi. Et donc, dans la salle des parents, il y a vraiment, J'arrive pas à trouver mon mot. Il y a vraiment un dicton qui dit tant que le bébé n'est pas dans le cosy, il n'est pas sorti. Donc, et c'est vrai, puisque on a vu des bébés le jour de leur sortie qui finalement sont bien restés encore quelques jours. Et du coup, quand le cosy est arrivé, je me suis dit vite, mets-le dans le cosy, parce que c'est bon, là, le dicton, il parle, une fois dans le cosy, c'est parti, quoi. Et ouais, là, c'est intense, quoi. C'est très, très intense. Mmh. Donc, moi, j'ai laissé partir Guillaume devant avec la petite, parce que j'avais besoin de voir l'image de Guillaume avec, avec Victoria. Donc, je suis restée à 2 mètres derrière eux pour voir, pour vivre ça en observatrice. Et puis voilà, la mettre dans la voiture, galérer à accrocher le cosy alors qu'on s'était entraîné plein de fois. Et puis bah évidemment, je monte derrière, on va pas la laisser toute seule derrière, faut que je surveille. Lui mettre ses jouets au cas où elle s'ennuie alors qu'on avait quand même que 10 km à faire, mais bon, on ne sait jamais. Et puis ensuite, voilà, la rentrer à l'appart avec elle. Et en fait, bah, on s'est trouvé très bête puisqu'on l'a pris avec nous. Et puis on est assis dans l'appartement et là on se dit ah oui. C'est ça, on est tous les trois chez nous. Enfin, c'était ça nous dépassait, c'était surnaturel d'être tous les trois à la maison et de découvrir Victoria sans fil, rattachée à aucune machine et chez elle, quoi. C'était fou.
Elle avait combien de kilos du coup quand elle est sortie? Elle pesait combien?
Quand elle est sortie, elle faisait 3,1 kg. Donc en fait, elle avait tout simplement le physique d'un bébé qui sortait de la maternité, qui est à son terme, en fait. Elle était prévue pour le 3 mars. On était le 29 février. Et en fait, elle avait bien poussé en dehors du ventre de maman. Elle avait rattrapé un petit peu. Et puis, petit à petit, parce qu'elle avait techniquement quand même bientôt 3 mois, petit à petit, elle a rattrapé à chaque fois d'un centimètre, d'un gramme, de quelques grammes. Et puis, au final, aujourd'hui, elle va avoir 17 mois dans 10 jours. Et puis, elle est parfaitement dans les courbes. Elle est à courbe basse, évidemment. Mais aujourd'hui, on la met à côté d'un bébé de son âge. Si on n'en parle pas, personne ne sait que c'est un bébé prématuré.
Et alors, comment ça s'est passé pour toi? Parce que du coup, tu as passé ton congé maternité en réa, finalement. Ta fille arrive, ta fille rentre à la maison et en fait c'est le moment où tu dois retourner travailler.
Exactement. Donc le souci étant qu'on ne pouvait pas mettre notre fille en collectivité et qu'en plus de ça, d'avoir une nounou à domicile, je ne sais pas si tu as déjà fait des devis de nounou à domicile, mais en fait ça nous prenait quasiment un salaire et finalement... l'assistante sociale de l'hôpital nous a appris qu'il existait un congé, la JPP. L'allocation journalière de JPP, allocation journalière de présence parentale, qui permettait à l'un des deux parents de rester à la maison parce que l'enfant ne pouvait pas être placé en collectivité pendant de 0 à 3 ans. On a beaucoup discuté avec Guillaume et moi, ce que je voulais, de toute façon, c'était le meilleur pour Victoria. Et il était bien sûr hors de question que je prenne le moindre risque qu'elle tombe malade. Surtout en hiver, qu'elle tombe malade parce qu'on aurait fait le choix que non, moi je retournais travailler, même si ça me pesait hein, d'être femme au foyer, mère au foyer, c'est encore quelque chose que je ne concevais pas à la base. Ça m'a coûté, mais je l'ai fait, j'ai pris la décision de faire la JPP du coup pour 6 mois. Et puis je suis restée avec ma fille, et puis en plus c'est tombé en plein dans le confinement, puisque quand Victoria est sortie 15 jours après. Le confinement sonnait, donc ça a été une fin d'année, voilà, toutes les deux, ça a été, voilà, c'était intense, quoi. On a rattrapé le retard des 77 premiers jours où je l'ai abandonnée, clairement, où quand elle avait besoin de moi, peut-être elle se réveillait, j'étais pas là, et du coup, moi, ça a été ma thérapie, je pense, de passer ce confinement avec elle. Ça a été un cadeau presque. Moi, je suis peut-être partie des rares personnes qui ont pris ce confinement vraiment bien parce que ça m'a collé à ma fille et ça m'a effacé les 77 jours de séparation. Donc le timing était plutôt parfait.
Et alors, comment elle va aujourd'hui? C'est quoi le quotidien
aujourd'hui, alors Victoria, je sais qu'il y a beaucoup de parents de prématurés qui... continue à vivre la prématurité pendant des années, mais nous c'est pas le cas. Nous en fait ça a été un peu compliqué la première année parce que effectivement elle a des traitements, enfin des soins, des injections régulières pour pour parer à tous les microbes qu'on peut avoir autour de nous. Mais aujourd'hui, elle ne les a plus puisqu'elle fait un poids suffisant et qu'elle a passé l'hiver sans aucun problème respiratoire. Elle n'est jamais retournée à l'hôpital. Or, c'est un peu notre crainte, hein, quand on sort de là, on n'a qu'une crainte, c'est de revenir en fait. Or, Victoria, ses poumons vont super bien, elle tousse pas, elle a pas de retard de croissance, elle mange comme quatre. C'est un vrai ogre à table. Et elle a un dynamisme, une pêche. Elle est épuisante tellement elle est vivante. Et bah, c'est le plus beau cadeau qu'elle peut nous faire, hein, de toute façon. Maintenant, je vous dis, la prématurité, je n'en parle plus, c'est fini. Enfin, j'ai écrit mon livre sur la prématurité comme pour clôturer, mettre un point final. Et aujourd'hui, ma fille, oui, c'est une prématurée, on va pas se mentir, et je lui dirai plus tard. Mais aujourd'hui, qu'importe quiconque la croiserait, n'aurait pas du tout idée de ça, quoi. Elle a une force, elle est drôle, elle est coquine, elle est maligne, enfin bref, elle est pleine de vie, quoi.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité ?
Bah tout, hein. Tout est galère maintenant. Je pars plus en vacances. Bah en fait, c'est un peu tronqué mon entrée en maternité puisque ça s'est fait exactement en même temps que le Covid. Alors du coup, on a tous arrêté de vivre. Donc je ne peux pas vraiment mettre sur le dos de ma fille que je voyage plus, que je fais plus rien, puisque en fait on est tous au même niveau. Alors on va dire que ma maternité, elle est pas trop contraignante parce que de toute façon. On fait plus grand chose, donc autant s'occuper de son enfant. Et non, l'entrée maternité, ça a été, ça a changé énormément de choses. J'ai changé moi, je me sens plus à ma place. Je sais pas comment dire, j'ai plus de doutes sur est-ce que ce que je fais, est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que je fais le bon métier, est-ce que je suis avec la bonne personne. C'est des questions qu'on se pose plus. Et puis on comprend pourquoi les gens font des enfants, tout simplement. Fut un temps, je me posais la question, mais pourquoi ? Alors que tout le monde dit que c'est chiant, tout le monde dit que ça coûte cher, tout le monde dit que les enfants vivement qu'ils soient grands et qu'ils fassent leur vie, pourquoi les gens, malgré tout, continuent à faire des enfants ? Bon, voilà, on a la réponse à plein de questions, en fait. De devenir maman, c'est une réponse universelle sur énormément de questions. C'est assez, assez grisant de voir son enfant avec ses parents. Par exemple, nos parents sont devenus grands-parents. C'est une relation... on se dit, ouais, on leur fait un beau cadeau, quoi. Ça aurait été tellement horrible de les priver de ça. Et nous, à l'inverse, on a trop hâte de la suite. On a trop hâte qu'elle aille à l'école. On a trop hâte d'inviter ses copains à la maison, on a trop hâte qu'elle soit ado et qu'elle nous raconte ses histoires d'ado, enfin ou pas d'ailleurs, mais enfin moi voilà, j'ai trop hâte de la suite en fait. Voilà.
Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux parents qui traversent la prématurité ?
Oui, un conseil aux parents de ne pas désespérer parce qu'il y a une issue à tout et surtout de faire confiance à leur enfant, parce que nous, par exemple, on n'a jamais douté de Victoria. Moi, je pense que si j'ai aussi bien vécu, aussi bien, autant que faire se peut, mais si j'ai aussi bien vécu ces 77 jours avec ma fille à l'hôpital, c'est parce que j'ai jamais douté d'elle. Je savais qu'elle s'en sortirait. Ça serait plus ou moins long, mais je savais pertinemment qu'elle se battrait et qu'elle nous rendrait fiers à la fin. Donc le conseil, ça serait vraiment ça, de faire confiance à l'enfant, plus que d'écouter les risques, les statistiques, les médecins. Bien sûr que les médecins savent ce qu'ils disent, mais il faut regarder la force de son enfant et ne pas en douter. Moi, je n'ai jamais douté de Victoria et c'est ce qui fait que j'ai tout supporté. C'est parce que j'avais une confiance aveugle en ma fille du premier jour où elle est née, je savais que je pouvais lui faire confiance.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman lyonnaise ?
Une maman lyonnaise, c'est une maman qui va pouvoir offrir de nombreuses possibilités à sa fille de découvrir des arts, du théâtre. En fait, c'est une ville qui est pour moi ouverte sur tout. Et c'est une chance, je pense, d'offrir ça à son enfant. Bon, surtout moi qui suis issue de ma Picardie, où j'ai pas forcément de grosses villes aux alentours pour découvrir, pour m'ouvrir au monde. Et ça, être une maman lyonnaise, c'est une vraie possibilité d'ouvrir son enfant à la curiosité du monde. Et ça, pour ça. Et à la curiosité alimentaire aussi, puisque ici, la gastronomie, c'est quelque chose. Et ça, je veux que ma fille ait ce palais. Et donc, c'est un beau cadeau d'être une maman lyonnaise.
Quel est ton endroit kids-friendly préféré à Lyon ?
Je te dirais le parc Blandan, puisque en fait c'est le parc qui est collé au Victoria Hall. Et c'est là où on s'est marié avec Guillaume, puisque forcément le lieu nous a parlé, le Victoria Hall. On s'est dit c'est forcément là qu'on va se marier. Et donc le petit parc juste à côté, c'est un parc du coup où on est allé très souvent pour discuter de notre avenir, de notre mariage, de nos enfants, de notre fille, de tout. Enfin voilà, c'est un parc que j'aime beaucoup.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille ?
Alors je t'avoue que mes projets ont été un peu contrecarrés ces derniers temps par l'annonce d'un cancer, mais ça n'empêche rien puisque avec du coup Guillaume, on va dire pour les projets famille. Déjà, projet couple, avec Guillaume, on envisage de faire le tour du Mont Blanc, qui a été déprogrammé cette année, mais qu'on va du coup tenter de se faire l'année prochaine. Projet moi, ce serait d'écrire un deuxième roman, qui est déjà en cours de réflexion depuis quelques semaines. Et projet avec Victoria, depuis qu'elle est née, le lendemain, je crois que j'ai fait son... Enfin, quand elle est rentrée à la maison, le lendemain, j'ai fait son passeport. Donc moi, je ne rêve que d'une chose, c'est qu'on puisse tous les trois sauter dans un avion et qu'elle aille découvrir un pays, qu'importe le pays d'ailleurs, mais qu'elle se rende compte qu'on vit dans un immense univers à découvrir.
Merci beaucoup, Virginie.
Merci à toi, Shane.
Merci d'avoir écouté Le Tourbillon et si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en mettant un avis et 5 étoiles sur votre application podcast. Cela m'aidera beaucoup. Pour échanger sur le sujet abordé avec Virginie, laissez vos commentaires sous la photo de l'épisode 86 sur le compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.